Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. La place des apparitions, reconnue par l'Église catholique dans cette période de la fin des temps. C'est un deuxième épisode que je vous invite à suivre avec mon invité, auteur d'un livre de 672 pages, Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion, près de 100 chapitres. Et c'est Vincent Delphy que l'on retrouve dans un instant. Bonjour Vincent Delphy.
Bonjour Nathalie.
C'est une suite de ce Vivante Église, un deuxième épisode de Vivante Église, puisque la semaine dernière, vous avez donné quelques clés de lecture pour mieux saisir, discerner et comprendre ce qui se vivra au moment de la fin des temps. Et vous avez surtout précisé et insisté que cette fin des temps, vous pouvez aussi le redire, n'est pas la fin du monde. Alors ce Vivante Église du jour nous fait un peu voyager du côté du Portugal, plus précisément à Fatima, avec les apparitions de la Vierge Marie, bien connue dans le monde entier.
Oui, bien sûr,
alors
bien
ces
sûr.
Apparitions, toujours en lien avec notre monde et les événements du monde, et cette fin des temps qui n'est pas la fin du monde.
Absolument.
Alors, on vous écoute.
Et Jésus ne revient pas dans la chair.
Et ça aussi, c'est
important. Oui, alors, c'est l'Immaculée Conception encore. Pour la fin du 19e, pour le début, le milieu et le début du 20e siècle, donc, l'Immaculée Conception, il va y avoir une gradation. D'abord, à partir de la médaille miraculeuse, l'apparition du 26 novembre, où la Vierge Marie demande à être priée comme Marie conçue sans péché, à Lourdes, où elle se présente comme l'Immaculée Conception, et à Fatima, où elle va demander que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé. Donc il y a une progression dans la révélation. Alors, pour les apparitions de Fatima, je vais aller peut-être directement au secret. Secret qui est remis à trois jeunes enfants, trois petits-enfants, dans ce village du Portugal qui porte un nom emblématique. Nous reviendrons sur ce nom, nous aurons l'occasion d'y revenir. La Vierge choisit certainement ces lieux. Donc, première partie du secret, bien, c'est la visite de l'enfer pour ces trois enfants qui ont été préparés. Vous connaissez sans doute la prière si simple au Mont Jésus. Préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes spécialement. Bon, voilà, l'enfer. L'enfer existe. Or, c'est en 1917 qu'ont lieu ces apparitions. Le secret est donné le 13 juillet. Secret en trois parties. Donc, première partie, la visite de l'enfer par les enfants. C'est un moment de frémissement pour eux et de grande peur. Et ça a duré très peu de temps. Mais ils en ont conservé un souvenir toute leur vie. Surtout pour Lucie qui a traversé le siècle. Les deux, hélas, sont partis très tôt. Mais ils se sont préparés. Ils se sont préparés, on pense, c'est adorable, la confession que fait François qui demande à Jacinthe qu'elle lui rappelle ses péchés. Non, cela, je l'ai déjà confessé. Non, non, il veut être prêt pour partir, il sait qu'il va partir. Second secret, seconde partie du secret, qui est lié, donc qui est comme toutes les prophétie conditionnelle. Si l'on ne consacre pas la Russie à son cœur immaculé, elle répandra ses erreurs dans le monde. Les bons seront persécutés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, on se dressera nation contre nation. Mais, à la fin, mon cœur immaculé triomphera et une ère de paix sera donnée au monde. Donc cette ère de paix, c'est le fameux règne de 1000 ans, symbolique 1000 ans, qui va succéder à ces épreuves et qui se conclura par le jugement dernier où là, le Christ, oui, se manifestera, mais sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et si vous remarquez bien, mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera, lorsque, lors de l'apparition de la médaille miraculeuse, dans la capitale de la France, à Paris, la Vierge Marie était juchée sur le globe du monde, le serpent sous ses pieds, ce qui en dit toute la portée. Elle a demandé que l'on frappe cette médaille dont on a déjà parlé, et lorsque la médaille a été frappée, dans un temps de pandémie d'ailleurs, du choléra morbus qui venait d'Inde, on avait un peu tardé pour la frapper cette médaille. Mais enfin, Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris, s'est décidé. Et lorsqu'elle a été frappée, qu'on l'a remise à Sainte Catherine Labourée, elle l'a prise, elle l'a baisée, elle a dit « Qu'il sera beau d'entendre dire Marie est la reine de l'univers ». Et oui, elle est sur le globe du monde. Marie est la reine de l'univers. Ce sera un temps de paix, de joie et de bonheur. Nous revenons à ce qui sera annoncé plus tard à Fatima. Mon cœur immaculé triomphera là, elle sera reine de l'univers. Et une ère de paix, de joie, de bonheur. Ce qui est toujours ce règne symbolique de 1000 ans. C'est ces 1000 ans de paix, de bonheur, bon, et à la fin duquel Satan sera relâché pour un temps très court. Et ce sera le jugement dernier. Donc, la seconde partie du secret, c'était 1917, 13 juillet. Or, juste quelques mois après, Lénine prenait le pouvoir. Et c'était un renversement, mais pour le monde entier. Le communisme n'a pas seulement répandu ses erreurs dans le monde, il l'a répandu aussi dans l'Église. Ça a modifié les liens entre les personnes, ça a modifié beaucoup de choses, et nous en supportons encore indirectement les conséquences. Donc la Vierge Marie avait une vision de l'avenir que n'avait aucun sage, aucun politologue de l'époque. Hein. On peut les rechercher. Cela s'est produit réellement. Nous avons du recul sur ces apparitions. Comment on peut nier aujourd'hui, véritablement? Et puis, troisième partie, cette fois-ci, c'est une vision. C'est Sœur Lucie qui écrit ce qu'elle voit. La vision commence par ceci. Un ange dans le ciel qui tient une épée de feu qu'il brandit au-dessus de la terre en criant « Pénitence, pénitence !» Et sur le côté, la Vierge Marie intercède avec son cœur immaculé. Et elle éteint, en quelque sorte, les flammes qui partent de cette épée de feu. Or, pénitence, pénitence, ça ne vous rappelle rien ? Nathalie, vous
alors
qui,
là, oui, on est avec.
Bien Lourdes.
Oui, je connais bien Lourdes. On est Fatima, on est en 1917-18. Et, oui. Et pénitence, pénitence, c'est un 24 février 1858, mais à Lourdes,
exactement,
avec cette visite de Marie du Ciel à la grotte Massabielle. Hein.
Et dans le temps du carême.
Et dans le temps du carême, donc symbole aussi des 40 jours.
Absolument. Hein,
40
oui.
jours, qui rappellent aussi le jeûne, la pénitence.
Ah, mais exactement. Ouais. Et donc, la Vierge Marie, vous remarquerez, elle est dans l'anfractuosité du rocher, elle n'est pas sur le sol du péché qu'elle désigne à Bernadette. Pénitence, pénitence, allez baiser le sol pour la conversion des pécheurs. Mais nous revenons à Fatima. Les pécheurs, mais l'enfer est rempli de pécheurs. Oui, et hélas, c'est un temps terrible pour ces enfants-là. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle voit, et c'est terrible pour elle, parce qu'elle le vit en même temps. Cette épée de feu. Donc, vous avez remarqué la date du 24 février, à Lourdes. La Russie a répandu ses erreurs dans le monde. Nous les payons encore. Vous connaissez la date de l'invasion de l'Ukraine,
eh oui,
qui en est une des conséquences.
Eh oui.
24 février 2022. Voilà, je vous laisse méditer sur ces relations. Et je voudrais, lorsqu'on a posé la question au futur Benoît XVI. Il était à ce moment-là préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, donc cardinal Joseph Ratzinger. Et on lui demande s'il avait lu le secret. Et il dit oui. Et là, il va faire une relation qui oblige à écouter. Alors, je cite un peu de mémoire, mais il annonce des châtiments conditionnels tels que la guerre nucléaire et des bouleversements cosmiques. Vous trouverez cela dans l'entretien qu'il a eu, qui se trouve dans le livre du journaliste italien Vittorio Messori, Jésus, tout simplement Jésus. Et donc, et il est gêné parce qu'il dit que si on annonçait ça de manière brutale, ce qu'il y a dans ce secret, ben ça sèmerait la panique, l'effroi. Et en même temps, il dit que tout ce qu'il y a de contenu dans ce secret correspond exactement à ce qu'annonce l'Écriture et qui est confirmé par beaucoup d'apparitions mariales, à commencer par celle de Fatima, dans ce qu'on en connaît, c'est-à-dire conversion, pénitence, sont les conditions essentielles du salut, c'est-à-dire pour éviter la catastrophe. Voilà, c'est très clair. Et lorsqu'on a posé un peu plus tôt d'ailleurs la question à Jean-Paul de lui-même, il était à Fulda, donc en Allemagne, et là je vais prendre le texte tel quel, hein. Je le prends, je vais faire une petite citation. « Qu'a répondu Jean-Paul II ? C'était donc après son attentat. Donc ce n'était donc pas un phénomène du passé pour lui, puisque voilà ce qu'il va dire. « Nous devons nous préparer à subir, dans un temps non éloigné, chaque parole compte, de grandes épreuves qui exigeront de nous la disposition de perdre même la vie et une remise totale de soi au Christ. » Par votre prière et par la mienne, il est possible d'adoucir cette tribulation. On en revient à l'évangile de Matthieu, la grande tribulation. Mais il n'est plus possible de la détourner, car seulement ainsi, l'Église peut être efficacement rénovée.
Retenez bien. Toutes les paroles sont importantes. Hein. Il n'est plus possible de la détourner, vous venez de dire.
Oui, c'est ce qu'on retrouvera plus tard dans les 10 secrets qui ont été communiqués précisément à Jean-Paul II le 2 décembre 1983, les 10 secrets de Medjugorje, où la Vierge dit que certaines des épreuves ont été effacées par la prière et le jeûne.
Et au fond, la pénitence.
Mais, pénitence. Vous avez oublié qu'avec la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. C'est dans cette même lettre adressée au pape par le père Tomislav Vlasic, le curé de Medjugorje. Mais là, donc, nous avons oublié que les derniers secrets ne seront pas effacés. L'homme est allé trop loin et nous devons aller au bout de nos erreurs pour en être guéri. C'est comme quand on dit à un enfant, ne te brûle pas, ne te brûle pas. Eh bien, la troisième fois, les parents permettent qu'ils se brûlent pour qu'ils comprennent. Et nous allons devoir passer par là. Nous passerons par toutes les épreuves du rosaire qui est rappelée à Fatima, puisque la Vierge Marie se présente comme Notre-Dame du rosaire dans le grand miracle du soleil, dont le rosaire a été voulu, et c'est constant depuis le Moyen-Âge, bien entendu. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est combien de fois dans le passé, dit-il, Jean-Paul II, la rénovation s'est effectuée dans le sang. Alors, lorsqu'on prend la fin du troisième secret de Fatima, je vais le résumer rapidement, c'est une vision donc que relate Sœur Lucie, donc de sa propre main, dont la première partie, vous avez compris, c'est pénitence, l'archange Saint-Michel qui menace la terre de son épée de feu. Et puis, voilà qu'un cortège, à la tête duquel il y a un homme en blanc, dans lequel on identifie au pape, et derrière des laïcs, des religieuses, des prêtres, etc., qui traversent une ville à demi en ruine, priant pour les cadavres qu'ils rencontrent en chemin. Et puis, ils gravissent une montagne escarpée, en haut de laquelle il y a une grande croix. Et là, elle donne un détail qui m'a surpris. Elle dit une croix en tronc de bois brut, comme si c'était des chênes lièges. C'est-à-dire que ce bois de la croix était desséché, sans doute par une chaleur intense. Est-ce la chaleur de l'épée de feu ? Oui, lorsque le futur Benoît XVI parle de menaces nucléaires et de catastrophes cosmiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la vision se termine par le fait que L'homme en blanc meurt au pied de la croix et avec lui tous ceux qui le suivent. Il meurt à la fois criblé de flèches et criblé de balles. Et il y a des anges avec des arrosoirs en cristal qui prennent le sang avec lequel ils rénovent l'humanité. Et voilà la phrase du Saint-Père Jean-Paul II. Il est possible d'adoucir cette tribulation, mais il n'est plus possible de la détourner, car seulement ainsi l'Église peut être efficacement rénovée. Alors, pardon pour tous ceux qui ont dit que c'était un phénomène du passé, étant donné que, vous le savez, l'année de anniversaire de l'apparition de Fatima, c'est-à-dire le 13 mai, pardon, la date anniversaire de la première apparition de Fatima, le 13 mai, le Saint-Père a subi cet attentat sur la place Saint-Pierre. Oui. Et il a pardonné à son meurtrier. Mais sur la télévision italienne, Rete 2, le major Viktor Cheimov, qui était un dissident russe, a dit « Nous avions mission d'approcher Jean-Paul II et chacun savait ce que cela voulait dire. » Et donc, il a été abattu, Jean-Paul II, par quelqu'un qui est passé par la filière bulgare, mais qui est un musulman, Mehmet Ali Aksa, à qui il a pardonné et qui s'est converti. Et lui et sa mère venaient tous les ans se recueillir sur le tombeau de Jean-Paul II. Voilà. Et donc, cette vision, il faut bien retenir ceci. Et maintenant, nous parlons du village même de Fatima, emblématique de l'islam, de la présence de l'islam, et tout particulièrement en France. C'est la plus grande communauté en France, l'islam, plus grande communauté européenne. De même que la plus grande communauté juive de l'Europe est en France. Donc, ce qui explique aussi qu'il y ait que le conflit israélo-palestinien soit transporté en France, pour ce que nous avons dit d'ailleurs dans la première des émissions, c'est que les Juifs, comme les musulmans, attendent à la fois le retour du Christ, qui est l'annonce de l'heure pour les musulmans, qui revient sur terre, on a dit, qui se marie, qui a des enfants, qui combat le Dajjal, le menteur, puis qui est enterré à Médine, bien sûr, et puis qui juge les chrétiens qui n'auront, au moment du jugement dernier, qui juge les chrétiens qui n'auront pas su reconnaître le Coran et Mahomet. Et les Juifs eux-mêmes attendent la venue du Mashiach. Donc, il y a une crispation des deux côtés, avec une nuance pour les chiites, si vous voulez, mais chiites et sunnites sont unis. De toute façon, les chiites attendent Al-Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé par Allah. Donc, c'est sans nier d'ailleurs ce qui est dans le Coran, évidemment, que Jésus est l'annonce de l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier, il revient sur terre. Mais les deux affirmations sont là, et donc, si vous voulez, sont à la base de la séduction de l'Antéchrist aussi, qui devra unifier toutes les religions du monde, et nous serons, en tant que catholiques, malheureusement, en train de résister, ceux qui resteront d'ailleurs de la postérité de la femme, comme il est dit, à résister parce que nous avons toujours défendu la vie et haut et fort, voilà.
Donc, aussi un des signes, peut-être. Et on vous retrouve dans un instant pour la suite de ce Vivante Église. Et c'est un épisode numéro 2 sur cette fin de temps, la lecture aussi des Saintes Écritures la semaine passée. Et aujourd'hui, la fin des temps, à la lecture aussi de toutes ces apparitions, principalement en France, les apparitions du ciel, de la Vierge Marie ou de Saint-Michel Archange. Vincent Delphi, auteur de ce livre qui mérite d'être lu, Jésus des mystères de la Bible au temps de confusion. Et Vincent Delphi, je vous propose de retrouver dans un instant pour cette suite de Vivante Église avec un visage de femme, voilà, du 19e siècle, stigmatisée. Elle se prénomme Marie-Julie. Voilà, on en parle dans quelques instants.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission de Vivante Église sur cette fin des temps, la lecture aussi des apparitions en France, apparition de la Vierge Marie, apparition de Saint-Michel Archange. Et puis cette deuxième partie, nous allons donc la consacrer à une mystique bretonne qui est du 19e siècle, Marie-Julie Janet, qui a eu, elle, des révélations sur le destin de notre pays, de la France, et on en parle bien sûr avec Vincent Delphi. Ravi de vous retrouver après cette pause musicale, Vincent Delphi. Alors qu'en est-il de ce lien entre l'histoire de notre pays, l'histoire de la France, de cette fin des temps, pas fin du monde, fin des temps, et de ces révélations d'une certaine mystique? Alors certains connaissent Marie-Julie Janet, d'autres ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez très vite
décrire
Marie-Julie dans son histoire.
C'est très impressionnant pour les détails qu'elle donne et qui sont vérifiables aujourd'hui, sachant qu'elle a quand même été défendue par le pape Léon XIII.
Oui, ça c'est important. Il a identifié les révélations que Marie-Julie a reçues.
Oui.
Le pape Léon XIII, vous écoute. Alors, on y reviendra.
Bon, c'est Marie-Julie Janet, personnage vraiment très attachant. C'est une stigmatisée. Tout enfant, elle avait une foi, mais une foi qui l'a dévorée, vraiment. Elle a vécu, je pense, pratiquement tous les charismes. Bien sûr, elle a été stigmatisée. Elle a vécu l'inédit complète une dizaine d'années. Non, pardon, c'est 6 ans, je pense. 6 ans, oui. Cet inédit, c'est-à-dire l'inédit complète, c'est l'abstention totale de nourriture solide et liquide. Abstention hydrique, vous savez, c'est mortel au bout de 6 jours. Et c'est attesté par le docteur Imbert et par Madame Gourbeil, qui venait chez elle et qui était très proche d'elle. Elle a eu à la main aussi ce qui s'est formé assez unique, je pense, c'est un anneau de chair. Tout à fait étonnant, donc elle a porté, elle était mariée avec Jésus. Et bien sûr, les dons de prophétie, il faut également dire que toute jeune, elle a été violée par son médecin de famille. Ça a été une très grande épreuve pour elle. Parce qu'en même temps, elle pardonnait, mais elle n'oubliait pas. Elle s'était présent. Voilà. C'était quelque chose qui a été certainement très douloureux pour elle. Voilà. Je ne m'attarde pas dessus. Donc, j'ai parlé du pape Léon XIII. Oui. En 1878, l'année où le pape Léon XIII a été élu, Marie-Julie Janet a reçu la visite de Saint-Michel Archange, qui lui a révélé le dialogue qui avait eu lieu entre le Père éternel et, et Satan. Et Satan défiait le Père éternel en lui demandant d'éprouver l'Église pendant un siècle. Et à sa grande surprise, c'est l'archange lui-même qui le rapporte à Marie-Julie Janet, Dieu acceptait. Alors, le Saint-Père Léon XIII, qui parlait très très bien français, qui a écrit d'ailleurs une encyclique en français au milieu des sollicitudes, qui a prêché aussi aux ouvriers français qu'il a reçu, c'était à la fois un pape mystique et social, et le pape du Rosaire, qui en fait la figure pour Jean-Paul II, qui lui a dédié sa première encyclique, Synthesimus Annus, puisqu'elle a été élue, Jean-Paul II, en 1978, c'est-à-dire 100 ans après l'élection de Léon XIII. Et vraiment, il y a beaucoup de points communs entre les deux, pape mystique et social. Et donc, le pape Léon XIII se faisait remettre les extases par le père Vanutelli, qui était venu la visiter. Et donc, il lisait attentivement. Et là, le Saint-Père, le 13 octobre 1884, a eu lui-même cette vision terrible. C'était entre deux messes, il avait célébré sa propre messe, et il suivait, comme c'était son habitude, une autre messe, et soudain, il a élevé la tête vers le ciel. On a vu fixer intensément le ciel. Et il est revenu. On sentait qu'il y avait une expression étrange, une pâleur. Ils n'ont pas osé dire qu'il était transfiguré, mais c'est une pâleur éclatante. Et donc, lorsqu'il est revenu, il est allé directement à son bureau, il s'est mis à écrire d'un trait la prière à Saint-Michel-Archange, qui a été dite, à sa demande d'ailleurs, par tous les diocèses du monde entier. Le pape Léon XIII a adjoint à cette prière à Saint-Michel-Archange, prière en latin, il y a adjoint le Salve Regina et les trois Je vous salue Marie, qui sont dites les prières léonines. Ces prières ont été dites jusqu'à Vatican II, et en 1964, le pape Paul VI les a inexplicablement supprimées. Mais Saint Padre Pio a continué, lui, à les dire jusqu'à sa mort, en 1968. Et on peut dire d'ailleurs que Benoît XVI lui-même, en rétablissant la messe tridentine, bien forcément, les prières du pape Léon XIII, les prières léonines y figuraient. Voilà, donc implicitement, elles ont été remises. Voilà. Eh bien, donc, pour en revenir au pape Léon XIII, lorsqu'il a appris, donc après qu'il ait vécu lui-même ce qu'avait vécu Marie-Julie Jaini l'année de son élection, lorsqu'il a appris que l'évêque de Nantes, puisque ça se passe en Bretagne, c'est un tout petit village, la Fraudée, c'est un hameau qui appartient au village de Blain. Et lorsqu'il a appris que l'évêque de Nantes l'avait suspendu des sacrements, quelle douleur pour elle! Quelle douleur! 11 ans suspendu des sacrements. Lorsqu'il l'a appris, il a fait une lettre de sa propre main et il a ordonné qu'on la rétablisse immédiatement au sacrement, ce qui a été fait. Et donc Marie-Julie Jaini, oui, a dit... C'est vrai que Saint Pie X a été un grand pape, mais le pape de mon cœur, c'est, et oui, c'est Léon XIII. Voilà, ce qui donne crédit par l'authenticité que le pape Léon XIII lui-même a accordé aux prophéties de Marie-Julie Jaini. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet, puisque ça va concerner directement la France. Elle a eu les plus grandes révélations sur la France, on va dire entre 1877 et 1882. Et donc, en 82, donc pour la France, la première, marchera à l'abîme et aussi à la résurrection. Et cela se passe dans le contexte d'une grande révolution universelle. Donc la France, la première, marchera à l'abîme, mais aussi à la résurrection. Ce sont les grâces, là aussi, on peut dire, de la médaille miraculeuse au départ. Et le combat que mène la Vierge Marie qui foule au pied le serpent dans la capitale de la France. Hein. Le peuple français, c'est toujours le même message, n'aura même plus son regret d'avoir livré son pays à l'emprise barbare. Je passe à deux autres messages. Là, je vais les lire.
Allez-y, oui, c'est des messages de
Marie-Julie. Oui, c'est important.
Ils sont importants. On écoute, on vous écoute, allez-y.
On est peut-être gêné en disant, mais il faut écouter attentivement. Avec tout ce que cela présuppose, y compris de souffrance pour elle qui l'a vécu. Ô France, on apportera dans tes lieux la poussière de l'étranger. Tu ne pourras renvoyer ces étrangers. Ta noblesse sera perdue. Vous avez certainement entendu parler des OQTF, hein, obligation de quitter le territoire. Tu ne pourras renvoyer ces étrangers. Il y en a qui ont été condamnés plusieurs fois, mais ils sont toujours là. Donc vous voyez la précision, on est gêné même face à une telle précision. D'ailleurs, le Christ lui a dit que ça n'était pas pour son temps à elle, mais qu'on ne perde pas de vue que cela allait arriver. La France, si belle autrefois, aura perdu son honneur et sa dignité, envahie par des peuples étrangers, sans cœur et sans pitié. France, ne rougiras-tu pas d'avoir été si lâche, toi si opulente? Oui, on peut se poser cette question. Comment se fait-il, malgré tout ce qui se passe tous les jours, tous les médias qui ressassent même en boucle. Mais nous parlons, nous parlons, nous parlons. Parole, 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 comme
dire. Et il y a encore, permettez-moi, mais lisez, c'est important pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui dans ce Vivante Église. Et c'est un deuxième épisode sur cette fin des temps, la lecture la semaine dernière des Saintes Écritures et aujourd'hui à la lecture de ces apparitions en France. Encore quelques paroles fortes donc de Marie-Julie.
Eh bien, elle annonce, alors ça c'est tout à fait important. Elle dit « Je reviendrai à Pontmain, ou comme à Pontmain, dans des variantes, pour annoncer les guerres de la France. » Attention, elle va revenir. Et elle annonce que l'invasion russo-arabe, retenons bien la formulation, l'invasion russo-arabe, viendra jusque-là pour fondre sur la Bretagne. « Je les arrêterai encore par un signe qui se manifestera dans les airs. » Alors, Pontmain, là, ce message date du 9 juin 1881. C'est 10 ans après les apparitions de Pontmain. Pontmain, 7 janvier 1871. Le village, petit village, Pontmain, une centaine d'habitants, pas plus. Les enfants, ils sont 7, voient dans le ciel la Vierge Marie qui déroule une banderole dans le ciel et elle épelle les lettres. Et là, le prêtre vient, la religieuse, une religieuse, et puis les parents, dont une cinquantaine de personnes, dans le froid de l'hiver, à prier et chanter à genoux. Et la Vierge dit ceci, « Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera dans peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » On ne sait pas dans 100 ans. Dieu vous exaucera dans peu de temps. Ils prient, ils y croient. Les Prussiens avaient envahi la France. Nous sommes en 1871. Ils ont pris Paris, Sedan, etc., Metz, Le Mans est tombé et ils encerclent Laval. C'est pas très loin de Pontmain. Et tous les hommes valides sont partis au siège pour soutenir. Ils prient. 3 jours après, inexplicablement, les armées prussiennes lèvent le camp et s'en vont, se retirent. Et tous les gens qui étaient partis, les gens de Pontmain, reviennent sains et saufs. Mais priez mes enfants. Et donc je pensais au texte qui a été envoyé au pape Jean-Paul II, donc le 2 décembre 1983, dans lequel la Vierge demande à ce qu'on communique ses secrets au pape. Et donc, mais vous avez oublié qu'avec la prière et le jeûne, vous pouvez arrêter les guerres, suspendre les lois naturelles. Et si on s'y mettait peut-être au niveau du monde entier maintenant ? Qu'attendons-nous ? Nous parlons, nous commentons les événements. Voilà, invasion russo-arabe. Mais nous revenons à Fatima. Si on a suivi attentivement les émissions, tout simplement, le nom de Fatima est emblématique de l'invasion arabe en France et qui a été arrêtée à Poitiers où on construit la plus grande mosquée d'Europe actuellement qui portera pour nom Balat el-Chouada, c'est-à-dire la chaussée des martyrs. Il y a une inversion de sens aussi, bien entendu. Mais je reviens à Fatima. Ce nom est emblématique de l'occupation musulmane en Europe et particulièrement aussi en France. Mais donc, le message concerne la Russie par invasion russo-arabe. Nous entendons, nous avons déjà dit que le 24 février, pénitence, c'est dans le message de Fatima, la troisième partie du secret, pénitence, qui était déjà lourde. Voilà. Et là, invasion russo-arabe, donc invasion de l'extérieur, mais aussi invasion de l'intérieur, et dont Marie-Julie Jaini révèle qu'il n'y aura plus de captifs retenus dans les prisons. On comprend ce que cela veut dire, si les captifs sont relâchés. Voilà, donc, l'invasion russo-arabe, invasion à la fois de l'extérieur, par notre vanité, nous avons dit que nous allions mettre l'économie russe à genoux. Nous sommes devenus l'ennemi numéro un de la Russie. Notre diplomatie a été complètement défaillante. Vraiment défaillante. Nous manquons d'hommes de stature, véritablement de stature politique, et qui aient envie de discuter pour la paix, réellement. Non, nous avons menacé. Et la France est devenue la première visée. Elle est l'ennemi public numéro un de la Russie maintenant. Vous savez ce qu'a dit Vladimir Fedorovski, qui a été le conseiller personnel de Gorbatchev, qui a de la famille en Ukraine et qui en a en Russie et qui vit en France. Mais il dit « mon cœur saigne », il dit avec son accent inimitable. Mais oui, méfiez-vous d'une bête blessée. Voilà, nous revenons à l'avertissement de Jean-Paul II et de la rénovation dans le sang, mais aussi du pape Benoît XVI, qui était encore cardinal, hein, sur la menace nucléaire et bouleversement cosmique. Oui. Et pénitence, conversion des pécheurs. Voilà.
Eh bien,
je voudrais conclure sur une note optimiste, mais à la fin, mon cœur immaculé triomphe. Voilà. N'oublions jamais cela.
Oui,
portons la médaille miraculeuse et nous comprendrons. Oui. Et observons-la, cette médaille. Et comme Sainte Catherine Labouré, quand elle l'a pris, qu'elle l'a baisé, qu'il sera beau d'entendre dire « Marie est la reine de l'univers ». Oui, elle le sera, croyons-le. Et c'est ce qu'a répété Marie-Julie Jaéni. Oui, oui. Et le Christ lui a dit « N'oublie jamais ce que je t'ai dit, car l'oublier serait m'offenser. » Et si les apparitions sont retardées par la prière et le jeûne, et peut-être supprimées, si nous nous y mettons tous, mais est-ce que nous nous y mettons? C'est la question, voilà. Mais restons sur cette belle note optimiste. Oui, la Vierge Marie, son cœur immaculé triomphera, elle sera la reine de l'univers. Et voyons-la sur le monde, foulant le serpent à ses pieds, parce que le serpent, nous le voyons, je crois. Alors, nous voyons aussi la Vierge Marie.
Merci infiniment de ce Vivante Église, de ce deuxième épisode. Donc, on peut retrouver ces émissions de Vivante Église, premier épisode et deuxième, sur le site de notre radio chrétienne. Je rappelle que si vous souhaitez aller plus loin, peut-être lire des textes ou lire un livre, eh bien, je vous invite à découvrir ce bel ouvrage, un travail très dense de Vincent Delphi que vous avez peut-être découvert aujourd'hui et à travers ces deux vivantes églises de ce mois. Ce livre s'intitule « Jésus des mystères de la Bible au temps de confusion », un livre avec près de 100 chapitres et 672 pages. Donc peut-être à se procurer, donc n'ayez pas peur, restez confiants et puis comme le rappelait mon invité, pénitence, jeûne, prière, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes et prions pour la conversion des cœurs et la conversion du monde. Merci à vous.
Merci, Nathalie.